Bonsoir à chacune et à chacun. Et c'est vrai, on se réjouit d'ouvrir la parole de Dieu. Si la louange pouvait être comparée à l'entrée, une belle entrée au restaurant, peut-être que le plat principal, c'est maintenant la parole de Dieu que nous allons ouvrir ensemble. Et je pense clore un peu cette série d'études sur différents personnages bibliques qu'on a eu depuis le mois de juillet. Et prendre un texte avec vous dans un prophète, dans le livre du prophète Ésaïe. Et ce texte, peut-être c'est un résumé du livre. Ça se trouve dans le chapitre 44. On va voir ça ensemble. C'est une parole prophétique. Et une parole prophétique, c'est une proclamation. C'est quelque chose qui est édicté par Dieu dans le ciel et qu'il donne à travers d'un serviteur, d'une servante, là en l'occurrence de Ésaïe. Et cette parole, eh bien, assurément, elle va s'accomplir. Elle est parfois assortie de certaines conditions, ça dépend. Mais là, cette parole va s'accomplir. Et là, elle a d'autant plus tout son sens parce que les circonstances qui sont autour de cette parole ou la vie des premiers auditeurs de cette parole, elle est à l'encontre de cette parole. Elle est à l'encontre. Vous savez, quelque chose, par exemple, qui vous arrive où vous vivez des circonstances difficiles, puis quelque chose qui vous arrive et le premier réflexe, quand vous découvrez un message qui vous vient, c'est « Ah, j'y crois pas. Est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est une blague ?» Il y a des fois un premier réflexe comme ça. Et probablement que les premiers auditeurs ou lecteurs de ce passage ont réagi comme ça. C'est une blague, ce que Dieu nous dit. C'est pas fondé. Il y a quelque chose qui les circonstances dénotent le contraire. Il y a des géants devant nous. Comment pourrions-nous les conquérir? Vous voyez tout ce contraste et ce premier réflexe qui pourrait être dans nos vies ou dans l'être humain. Mon message ce soir, je l'ai appelé « Sois construite, que tes fondations soient posées ». Et c'est donc tiré de Ésaïe, chapitre 44. Il faut prendre, par rapport au livre prophétique, un petit peu de hauteur, un petit peu de compréhension globale. Et c'est assez facile de prendre dans le livre d'Ésaïe, par exemple, des promesses qui sont là et de se les appliquer pour soi. Mais il faut quand même se rappeler qu'il y a eu des premiers auditeurs, cette génération de Juifs qui allaient soit être exilés, soit qui étaient déjà exilés. Et comme très bien l'a dit Christian ce soir, sans savoir mon message, en fait, il a parlé de gens qui étaient en mouvement, de populations qui étaient... on va dire des sans-papiers, quoi, qui étaient appelés à bouger dans un autre pays, eh bien, c'est la situation du peuple de Dieu qui est là où le territoire d'Israël se vide de sa population, où les gens qui habitaient, qui prospéraient, les familles qui étaient là, se vident, et une partie est envoyée donc en exil, et d'où le livre du prophète Daniel. Vous voyez, peut-être qu'on rassemble un peu les éléments comme ça de ce que nous dit la parole de Dieu. Mais revenons déjà au tout début, où Dieu s'est manifesté aux patriarches alors qu'ils n'avaient pas d'écrit. Les patriarches, les premiers pères d'Israël n'avaient pas d'écrit. Et il dit à Abraham, par exemple, « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Et c'est comme ça qu'il se révèle. « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Imaginez, on ne connaît rien, et puis Dieu, une voix là, se manifeste. « Je suis le Dieu Tout-Puissant ». Ensuite, petit à petit, il se fait nommer comme « Je suis » à Moïse. Je suis celui qui sera ou qui est et qui était. Dieu est là, c'est sa présence, son omniprésence même à Moïse. Et puis tout au long de l'Ancien Testament, et bien sûr aussi aux patriarches, eh bien, Dieu se fait connaître comme Yahvé ou celui qui est l'Éternel. Et puis on y ajoute, suivant les circonstances de la révélation, un adjectif, Dieu, celui qui pourvoit, Yahvé Jiré, celui qui guérit, Rapha, vous vous rappelez tous ces noms d'origine hébraïque. Donc Dieu se révèle par son nom. Et puis on arrive à la création du peuple, d'un peuple, le peuple d'Israël. Il est créé à partir de rien. Sarah était stérile, rappelez-vous l'histoire, et puis Dieu promet. Et lorsque Dieu promet, sa parole va s'accomplir s'il trouve la foi dans le cœur de ceux qui reçoivent cette parole. Et Dieu a comme ça son plan qui se déroule au fur et à mesure et dont on a les écrits. Alors je saute maintenant au prophète Ésaïe, où malheureusement, il y a eu beaucoup de destruction, d'autodestruction. comme dans la vie, on peut connaître des gens qui, on ne sait pas trop pourquoi, sont dans un processus d'autodestruction qui peut mener dramatiquement à la mort. Eh bien, Israël, on va dire, c'est la branche sur laquelle cette nation s'est assise. Dieu a fait alliance avec ce peuple, mais au bout d'un moment où certaines générations le rejettent, cette alliance. Et lorsqu'il y a rejet de l'alliance, il y a danger. On s'expose à des dangers, on fait des choix qui ne sont pas les bons, et en tout cas qui ne sont pas les meilleurs. Et Dieu envoie dans l'histoire d'Israël des hommes, des femmes, des prophètes qui secouent le peuple et qui dit succinctement « Revenez à moi, revenez à moi ». C'est le refrain que l'on trouve notamment dans le prophète Joël « Revenez à moi, vous les buveurs de vin, les prêtres, etc. Vous allez beaucoup trop loin ». Et malheureusement, le peuple ne revient pas à Dieu. Bien sûr, il y a des individualités qui reviennent au Seigneur, les prophètes sont consacrés, leurs familles aussi, mais globalement, les responsables du peuple et les anciens ne reviennent pas à l'Éternel comme il faudrait. Alors Dieu est obligé de juger. Et dans le livre du prophète Ésaïe, il y a jugement. Dieu se présente comme le Dieu saint, c'est le thème du prophète, du livre. Je suis le Dieu saint, le saint d'Israël même. Et il y a des conséquences à vos choix qui sont mauvais. Nous le savons pour le peuple de Dieu ici en Israël. Mais à chaque fois qu'il y a annonce de jugement, Dieu annonce le rétablissement. Dieu annonce le rétablissement. Il ne dit pas, voilà, vous avez fait des non-choix, vous avez choisi à l'opposé de ce que je vous préconisais, mais ok, vous en êtes là, mais je vous promets des temps de rétablissement. Le rétablissement de toutes choses, ou la restauration. Et les prophètes aiment ce mot « restauration ». Où il n'y a rien, où il y a un charnier même, par exemple Ézéchiel, le charnier des chapitres 37 et 47 aussi, le charnier et la vie va reprendre. Mais il faut attendre un petit peu, il faut que les cœurs soient prêts, en son temps. Cette restauration totale, Dieu l'a promise au travers de la bouche des prophètes, et elle vient au travers de Jésus-Christ. La plénitude de la restauration pour ta vie, c'est au travers de Jésus-Christ. On l'a chanté ce soir, plein de fois, l'œuvre de la croix. J'ai confiance en toi. Grâce à la croix, toutes choses s'accomplissent. Et c'est merveilleux. Mais en attendant que cette restauration s'accomplisse en Jésus-Christ, les prophètes la prophétisent. C'est leur job. Et ils n'ont de cesse de le faire. La restauration de toutes choses et la nouvelle alliance qui doit venir. Que comprend cette restauration? Le salut de nos vies. Ton salut. Si Dieu nous sauve, ça a été annoncé par les prophètes. La croix a été annoncée par les prophètes. 800 ans avant, c'est génial ça. En tout cas, 800 ans pour Ésaïe, c'est formidable. Si nous sommes sauvés en Jésus-Christ, si j'ai la vie éternelle, les choses ont été annoncées bien à l'avance. Qu'est-ce que Dieu est bon. Cette restauration comprend aussi la guérison de nos âmes. Ou alors pour l'apôtre Paul, c'est la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sauvé, oui. C'est bon, je continue à pécher, je fais comme je veux. Non. Non, tu es sauvé pour glorifier Dieu. L'Église est sauvée, les individualités de l'Église sont sauvées pour glorifier Dieu. Alors, est-ce que dans la vie de tous les jours, ce que je fais ou ne fais pas glorifie Dieu? C'est une bonne question. L'autre jour, je disais aux ados de l'école Timothée, je leur disais, il y a une joie extraordinaire à dire non au péché. Ça fait partie de la sanctification. C'est une joie extraordinaire à refuser de s'associer à certaines situations ou personnes, pour se garder, se protéger. Et plus on apprend ces choses-là jeunes, mieux c'est. D'accord, hein? Qu'après, Dieu, il a plus de boulot pour nos âmes si on n'a pas pris le bon pli. La restauration, donc le salut de nos vies, la guérison de nos âmes, la restauration de nos destinées aussi. Si pendant des années, on était à côté de ce que Dieu voulait, même des fois juste un peu en parallèle ou tout un petit peu à côté comme ça. Lorsque le salut vient dans notre vie, Christ, tac, il nous remet sur le bon aiguillage. C'était pas la bonne voie, mais il nous remet sur le bon aiguillage, le péché cherchant toujours à nous détourner. Et il restaure nos vies. Et on peut dire ce soir, tu as un avenir au nom de Jésus-Christ. Tu as un avenir quel qu'a été le passé. Dieu a un avenir pour nos vies. Et un avenir glorieux. Un plan initial qui s'accomplit. Et puis, au-delà de ce plan initial, il y a la guérison de nos nations. Il y a la guérison de nos nations. Qui c'est qui a envie de voir Genève guérie du péché et délivrée? et la Suisse. Et notre région éonnais restaurée, guérie et rétablie. Alors, c'est pas qu'on est des illuminés en disant « Ouais, mais c'est pas possible, notre État, il est laïque et déclaré comme tel. » C'est pas la question, on se bat pas sur ce plan-là, mais on se bat pour la conquête des cœurs. Dieu cherchant à établir son royaume dans les cœurs de monsieur le maire, de madame le maire, des autorités, de vos patrons, de nos chefs, etc. Et c'est un combat spirituel, parce que bien sûr, il y a un adversaire qui cherche toujours la destruction. Lorsque Dieu annonce par Jésus-Christ la venue définitive, l'installation définitive du royaume de Dieu, il ne fait pas autre mention que ces temps de restauration. Donc en fait, ce que j'ai devant moi, et j'espère que vous me voyez comme tel, c'est une personne restaurée, ou en cours, ou en voie de restauration, en plein travaux, mais en restauration. Je suis sauvé en Jésus-Christ, mais je suis en restauration. Alors vous allez me faire grâce pour tout ce que je vais faire de travers à l'avenir. Tout ce qui ne répondrait pas à vos attentes, et bien sûr, je suis humain, mais je suis sur la bonne voie, grâce à vos prières et au conseil de mon épouse. Merci. Amen. Important, hein, tout ça. Voilà. Et non, on est tous en route, on est des non-arrivés, mais on est sur la bonne voie en Jésus-Christ. Mais encore une fois, si on se replace dans le contexte de l'époque, 8e siècle avant Jésus-Christ, le prophète reçoit des messages de restauration. Il y aura le temps du rétablissement de toutes choses. Que comprend cette restauration ? Une promesse de rachat, une promesse de délivrance, une promesse d'accomplissement, ou alors une double promesse, une double certification. Lorsque nous sautons dans cette alliance qui est faite avec Jésus-Christ, tout cela est inclus. Rachat, délivrance et accomplissement de ce que Dieu a promis en Jésus-Christ. Alors voilà le texte d'Ésaïe 44, versets 24 à 28. Ésaïe 44, 24 à 28. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète, celui qui t'a façonné, dès le ventre de ta mère. C'est moi, l'Éternel, qui suis l'auteur de tout. Tout seul, j'ai déployé le ciel, par moi-même, j'ai disposé la terre. 25. Je fais échec aux signes des faiseurs de prédiction. Je frappe de folie les devins. Je fais reculer les sages et montre la stupidité de leur savoir. Je confirme la parole de mon serviteur et je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers. Je dis à propos de Jérusalem, elle sera habitée, et à propos des villes de Juda, elles seront reconstruites, je relèverai leurs ruines. Je dis aux profondeurs de la mer, asséchez-vous, je vais faire disparaître vos courants. Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem, sois reconstruite, et au temple, que tes fondations soient posées. Ce dernier verset va s'accomplir littéralement, puisque le Cyrus le Grand va libérer les Hébreux retenus en captivité afin qu'ils puissent retourner sur leur territoire, reconstruire le temple, reconstruire leur ville, reconstruire Juda. Ce ne sera pas simple, mais ça va se faire. Et cette parole s'accomplit encore aujourd'hui. Verset peut-être un peu mystérieux, si on les sort de leur contexte. Et on va les projeter un peu pour nous aujourd'hui. L'année passée, il y a même presque 2 ans, le verset clé de la paroisse que j'avais choisi, c'était Ésaïe 43, où il était dit que des fleuves allaient couler dans le désert. Et j'espère que des fleuves ont pu couler dans nos vies, dans votre vie et dans ma vie. Et ça, c'est comme une promesse individuelle. Mais il y a la promesse plus grande d'une restauration de la paroisse, hein, je saute directement à l'application, je prends Ésaïe 44, et une restauration, et je crois que c'est le regard de Dieu, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Christ, à Aunay, ici. Dieu a un plan de restauration. Dimanche passé, il était question du bon berger, et on a eu le témoignage d'Evelyne, on a vu la main du bon berger qui sauve, qui guérit, qui intervient, mais Jésus veut le faire au niveau plus large. Il veut envoyer son Cyrus, on va parler de lui un petit peu tout à l'heure, pour libérer son évangile afin que des âmes soient sauvées et délivrées. Ésaïe, fils d'Amoth, reçoit la parole de Dieu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Son nom est prophétique, signifie « l'Éternel sauve ». L'Éternel salue. Le salut est l'Éternel. Et ça résume tout son message. Dieu va sauver. Et encore une fois, les circonstances sont contre cela. Imaginez un champ de ruines. Voyez votre maison, votre appartement. Imaginez que des bombes soient venues. Si vous êtes peut-être déjà allé dans un pays où ça a pété une fois ou l'autre. Imaginez les impacts de balles dans votre cuisine, partout là. Eh bien, c'est ce qui se passe en Juda et à Jérusalem. Ça a pété. Ils se sont fait envahir. Plus rien n'est debout. Et la prunelle de leurs yeux du peuple de Dieu, c'était le temple. Il est détruit, il est vidé de son essence. Et pire, avant, l'idolâtrie s'était installée. Mais Dieu promet encore une fois la restauration. Alors le livre du prophète Ésaïe, c'est un bilan. Voyons ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Analyse, sans compromission. Et Dieu convoque son peuple. Et il dit au chapitre 1er, « Venez, plaidez, je vais vous écouter et je vous dirai mon verdict. » C'est le livre du prophète Ésaïe. Mais il y a les plus belles promesses qui sont à venir. Oui, si Ésaïe est d'abord un bilan qui doit amener à la repentance, nos propres vies, il est juste aussi de faire des bilans pour amener au changement et à la repentance nécessaire avec l'aide du Saint-Esprit. Lorsque nous avons eu cette vague de virus, les chiffres, on les voyait augmenter, du coronavirus. On voyait ces chiffres des personnes atteintes et le bilan des décès, etc. Eh bien, assez vite, des voix se sont élevées pour dire « faisons un bilan ». Alors, c'est un peu le prophète Ésaïe, c'est un peu le texte du livre d'Ésaïe. « Faisons le bilan ». Mais, à l'inverse du monde, c'est Ésaïe dit « faisons le bilan » et notre monde a essayé de faire un bilan, mais c'était bien prématuré, eh bien, Ésaïe propose la solution, qui donc va dans la restauration. Et comment elle va se produire? Elle va se produire au travers d'un homme qui est nommé le Cyrus. Cyrus, roi, ici, Cyrus le Grand. Cyrus, roi de Perse. Il y a eu plusieurs Cyrus. Alors, il y a une querelle qui dit, mais peut-être qu'Ésaïe connaissait ce roi de Cyrus longtemps à l'avance, alors d'autres qui sont plus littérales dans les Écritures, disent « Oui, mais c'est par révélation qu'Ésaïe reçoit ce texte, ce nom de Cyrus, peu importe. » Mais en tout cas, un Cyrus va être utilisé pour offrir la délivrance. Ésaïe reçoit des promesses longtemps à l'avance, et il parle donc de ce Cyrus au verset 28. « Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger, il accomplira toute ma volonté. » Comment un homme peut accomplir toute la volonté de Dieu ? C'est plus qu'un homme. L'Apocalypse nous dit que c'est le descendant de David. Qui est ce descendant de David? C'est Christ, bien sûr. Au travers de Cyrus, nous voyons la personne de Jésus-Christ qui rachète, qui délivre à la croix et qui te rachète. Regardons ce verset 24. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui te rachète. L'Éternel est son nom. Dieu est venu au travers de Jésus-Christ pour nous racheter. Pourquoi? Parce que notre vie, ta vie, a de la valeur à ses yeux. Tu n'es pas un moins que rien, tu n'es pas une moins que rien, mais ta vie a de la valeur à ses yeux. La preuve, il a envoyé Jésus pour te racheter. Et lorsque Jésus nous voit, il dit au Père, « Voici mes rachetés, voici ma rachetée, mon racheté. » Et on a été rachetés à grand prix, 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens 7, une partie de ce passage, c'est « Si tu peux être libre, si tu peux ne plus être esclave, libère-toi de tes chaînes. » Donc c'était concret pour les Corinthiens. Il y avait beaucoup d'esclaves dans l'église de Corinthe. « Tu as des chaînes aujourd'hui? Tu peux être libre? Vas-y. » C'est une image en Jésus-Christ que tu es libre. 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix. Nous étions tous esclaves du péché. Au travers du péché, Satan nous tenait captifs. Et peut-être même encore ce soir, des personnes sont là en train de dire « Mais moi, là, je suis captif dans cette situation. La prison est mon lot dans cette situation. » Prisonnier du péché, prisonnier d'une routine qui encercle, qui enferme. Jésus-Christ te libère. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors oui, une promesse de rachat. Celui qui nous a façonnés dès le ventre de notre mère. S'il y a eu conception, et nous sommes là, il y a eu aussi conception divine sur ta vie. Il y a eu appel de Dieu sur ta vie et il t'appelle à l'existence. Est-il besoin ce soir de nous rappeler combien nous sommes aimés de lui ? Tu es aimé et il nous aime d'un amour éternel et sans faille. Sa grâce abonde, on l'a chanté. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'avait pas besoin de le faire, il l'a fait. Dans ce même verset, Dieu déclare que l'Éternel est son nom, qu'il nous rachète, qu'il nous façonne, il nous a façonné dès le ventre de notre mère. Ça, c'est le remède anti-déprime, même anti-suicide. Tout seul, j'ai déployé le ciel. Voilà l'humilité que nous devons avoir. Dieu est Dieu et nous le reconnaissons comme tel. C'est pourquoi l'Église chante. Et à chaque fois qu'on chante à l'Éternel, nous reconnaissons notre humilité, notre petitesse, que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Nous ne sommes pas des tout-puissants, nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui avons tout compris. Non, nous sommes créatures et non créateurs. Il n'y en a qu'un seul qui est créateur et gloire à son nom. Alors si l'Éternel nous rachète dans ce texte, il est aussi l'Éternel qui nous délivre. Et il nous délivre. Comment il le fait ? Alors c'est intéressant le verset 25, parce qu'il va confondre. Il va confondre ceux qui savent, les sages de ce siècle, et puis tous ceux qui prédisent, etc., ceux qui sont au service de l'adversaire de nos âmes. Je fais échec au signe des faiseurs de prédictions. Je frappe de folie les devins. Rappelez-vous dans l'histoire du peuple de Dieu, au temps des Joseph, au temps des Moïse, au temps des Daniel, il y avait confrontation spirituelle, hein, directement, des augures, des satanistes voulaient détruire, mais la puissance de Dieu se manifeste, le Saint-Esprit révèle et confond. La plus grande victoire de toute l'humanité, c'est la croix de Jésus-Christ. Nous rappelons ce soir l'œuvre de la croix. Si nous étions face à face avec des personnes qui prédisent l'avenir, des occultes, etc., tout ce cortège de démons. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre, pas provoqué, mais on n'a rien à craindre. Le plus petit d'entre nous, spirituellement parlant, est capable de renverser le plus fort des démons parce que nous sommes habités du nom de Jésus-Christ et celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Il y a un espoir pour tous et pour toutes. Dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le mot-clé de ce verset 15, c'est qu'il a dépouillé les dominations. Quand je pense au mot dépouillement, je pense à un de mes oncles, quand j'allais chez lui en vacances, qui tirait ses lapins, n'est-ce pas ? Il prenait son lapin, parce qu'on allait à midi manger un lapin, cuisiné par ma tante. Alors je le voyais faire, c'était pas très attirant, mais je regardais ce qu'il faisait, j'étais fasciné. Après avoir tué le lapin, il fallait vite inciser, le vider, vous connaissez ça mieux que moi, certains, et il le dépouillait. C'était physique, hein ? Il l'enlevait. Voilà, la peau, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai encore ce souvenir. Il en arrachait la peau parce qu'il y avait le meilleur qui était dessous. Le lapin était dépouillé. Le diable a été dépouillé par l'œuvre de la croix, n'est-ce pas ? Son pouvoir, son autorité, qui fait encore semblant de l'avoir, mais il a été dépouillé sur ta vie si tu es dans le royaume de Dieu. Alors saute les deux pieds joints dans le royaume de Dieu, le royaume de lumière. Si nous appartenons à Christ, l'ennemi n'a plus de pouvoir sur nous. Parfois, il fait semblant encore d'en avoir, ou parfois, on lui laisse la porte ouverte. Mais spirituellement, affirmons cela, il n'a plus de pouvoir sur moi. Je suis passé par les eaux du baptême en Jésus-Christ. Jésus lui-même, dans Jean 14, 30, dit « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le prince du monde vient, et il n'a rien en moi. » Le but de Dieu pour ta vie, c'est que le diable n'est un des buts, n'est plus de prise sur nos vies, comme pour Jésus-Christ. Alors ce soir, c'est un jour d'échec pour l'adversaire. Il nous faut le rappeler. Échec à l'adversaire de nos âmes. Jour de défaillance. Il a défaillé. Il est tombé, n'est-ce pas ? Il est tombé de son piédestal. Rappelons-lui. Jour certes d'attente d'une victoire totale et absolue lorsque nous serons dans la présence du Père directement. Mais Satan, et ce jour-là, Satan sera lié à tout jamais. Mais nous sommes en attendant plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Saisissons cette victoire tout concrètement pour nos propres vies. Alors, promesse de rachat, promesse de délivrance, et enfin, promesse non seulement pour l'Église, mais promesse pour Onet et ses habitants. Et ce message, c'est comme une proclamation, même si les 17 000 habitants d'Onet ne m'entendent pas encore et ne vous entendent pas encore, mais c'est une promesse et une déclaration dans le monde invisible pour les Onésiens, les Lancéens et là où vous habitez. Je confirme la parole de mon serviteur. Je mets à exécution les décisions annoncées par mes messagers que vous êtes. Je dis à propos d'Onet, de Jérusalem avant, elle sera habitée. Et à propos des villes de Juda, du canton, elles seront reconstruites et je relèverai leurs ruines. Dieu promet un rétablissement et un relèvement. Promesse d'accomplissement. Alors que nous réalisons qui est Dieu, il nous rachète et combien il a vaincu l'adversaire de nos âmes au prix de sa vie. Il veut rétablir Jérusalem, notre Jérusalem. Rappelons-nous que Jésus fait de nous ses témoins. À Jérusalem en premier. Où est ta Jérusalem ? Là où tu demeures, dans ta famille, là où tu travailles. Il y a une promesse de restauration et de rétablissement. Il y a peut-être des jours sombres. La parole de Dieu nous dit que nous sommes dans des temps d'abrutissement, des temps de somnolence spirituelle. Et ça nous concerne. Même si la ville de Genève est belle, spirituellement, il y a un temps comme d'engourdissement. Peut-être les cœurs jusqu'à présent ne sont pas très attirés par les choses de Dieu ou font fausse route. Mais rappelons-nous la parole du prophète comme une décision éternelle pour Israël d'abord et pour nous aussi. Zacharie 3:9 promet que ces temps de restauration peuvent venir très rapidement, en un jour. Toute une nation s'est relevée en un jour. Zacharie 3:9, j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. C'est le jour de la croix. Le temps de la grâce est là pour Onet et pour cette région. Ce jour est celui de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Ne pas oublier, les deux sont liés. J'aime à imaginer le jour ou l'instant alors que le corps de Jésus qui avait été crucifié était inerte, où son âme est rentrée en lui dans le tombeau. C'était dans le tombeau, la gloire de Dieu est venue, l'Esprit de Dieu est venu, et l'âme de Jésus-Christ, je ne sais pas si je peux dire son âme, mais en tout cas, est revenue et l'a remise sur pied. Et les témoins qui étaient les anges, les premiers témoins et le monde invisible, ont vu la gloire de l'Éternel. Et après, il s'est montré à ses proches et à ses disciples. La gloire s'est manifestée en un jour, en un instant. J'aime imaginer la ville d'Onet visitée par l'Éternel. Dans le livre de Pierre, il est écrit « Le jour où Dieu les visitera ». Un jour est prédestiné, prévu par l'Éternel, où tes collègues seront visités, où nos familles seront visitées, où la gloire de l'Éternel sera visible, audible. Alors le peuple de l'Éternel sera à genoux le dimanche à 17h pour rendre gloire à Dieu. Nous devrons freiner les témoignages tant il y en aura. Comment baptiser 10, 15, 20 personnes ou plus en même temps ? Nous irons au bord de l'air, au bord du Rhône, je ne sais pas, on va voir. Le royaume de Dieu s'installera enfin dans les cœurs. À nous d'être ses témoins, et Dieu nous envoie comme des Cyrus en avant. Il y a une stratégie militaire qui existe, qui consiste à envoyer des corps d'armée, des corps d'élite en avant, afin d'installer, de mettre en place des zones stratégiques où après la suite de l'armée pourra s'installer dans le plus gros. Soyons ces troupes d'élite pour l'Éternel. Là où tu es, sois un Cyrus, peut-être même sans le savoir, enfin maintenant vous le savez, vous êtes des envoyés, des Cyrus qui vont en avant pour annoncer, communiquer à nos amis, à nos proches, voilà, le royaume de Dieu est là pour toi. On est projeté en avant. On délivre au nom de Jésus-Christ, bien sûr. Alors le temps de la restauration est là, en Jésus. Rétablissement, salut pour tous ceux qui regardent à la croix. Relèvement des individus au niveau social. C'est beau, une âme qui vient à Christ et que Dieu se met à rétablir, délivre d'esprits mauvais, vient et pardonner, et racheter, se repent, etc. Vit ce processus de nouvelle naissance. Imaginons cette œuvre parmi nos proches, nos collègues, ceux que nous connaissons, même ceux qui aujourd'hui sont les plus fermés aux œuvres de Christ. Imaginons cette œuvre du Saint-Esprit dans des couples, aujourd'hui mis à mal. Imaginons et fortifions-nous dans la foi et la certitude que Dieu met en route maintenant des plans pour nos familles, pour nos proches. Dieu a déjà commencé à mettre en route, mais qu'il accentue cela. Par là même, il donne le rétablissement de l'Église, parce que l'Église est sur son cœur, l'Église locale, toute Église, communauté locale. Et il aime voir son royaume se manifester dans des vies. Je termine mon message en disant ce verset, en proclamant ce verset au travers de Cyrus, n'est-ce pas ? C'est lui qui a proclamé par son édit de retour, « Sois reconstruite, et pour nos vies, soyons reconstruits, et au temple, que tes fondations soient posées. » Bien sûr, on ne peut pas reconstruire si les fondations ne sont pas bien posées à nouveau. Ce soir, qui souhaite être un instrument dans la main du Seigneur ? Un Cyrus qui peut-être a commencé à être restauré, puis qui a encore un peu de travail, mais être un Cyrus envoyé au loin afin qu'il rebâtisse des vies, des cœurs, des âmes. Ça dépend là où on en est, mais en tout cas, il nous envoie. Et il veut confirmer sa parole de grâce. C'est peut-être toute une église qui a envoyé, hein, comme tête de pont. C'est peut-être une œuvre chrétienne qui a envoyé, un évangéliste qui est envoyé. Et nous-mêmes, nous tous qui sommes témoins, sans nous sentir écrasés par la tâche. Seigneur, je te remercie. Tu es un Dieu bon. Lorsque tu nous sauves, tu le fais par amour. Lorsque tu nous libères, tu le fais par ta puissance. Ces témoignages de grâce, et je t'en remercie, eh bien, continue ton œuvre dans nos vies de restauration. Pour ma part, je m'ouvre à ton Saint-Esprit, là où il veut m'emmener, là où il veut travailler, restaurer, pardonner, guérir. Seigneur, fais-le dans nos vies, dans nos familles aussi, qui ont été parfois malmenées, certaines plus que d'autres. Accomplis ta parole de restauration pour Israël, pleinement, et aussi pour cette région, nous t'en supplions, cette région là où nous sommes placés, là où nous habitons, pour mes voisins, pour nos chers, nos proches qui sont là. Tu as un plan, qu'ils se mettent en route. Et alors que tu le mets en route, tu le promets, tu vas le mener jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'au bout, en dépit peut-être des apparences. Merci, Seigneur. Seigneur, sauve. Seigneur, rétablis. Seigneur, guéris. Seigneur, envoie. Seigneur, confirme ta parole, notre Dieu. Merci. Amen. Amen.